garder le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Allons maintenant parler à Philippe Lorange, notre collaborateur, qui est lui collaborateur à l'Action nationale, étudiant en maîtrise en sociologie. Parlons de vie nationale, justement. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors là, on dit souvent, la démographie, c'est la reine de toutes les autres questions, ou c'est le roi, c'est selon, bref, c'est celle qui prime le plus. Et là, on a eu cette semaine des nouvelles assez troublantes. Le poids démographique du Québec qui baissait. Mais là, on a eu une projection que sur une échelle de 20 ans, ce qui est demain matin, est presque en chute libre. Là.
Une chute assez importante, je crois, là, parce que c'était dans la presse, on voyait une projection qui montrait que d'ici 2047, donc d'ici 25 ans, là, en ce moment, on sait que le Québec compte pour 22% de la population canadienne. Mais si on y va avec les seuils d'immigration qui sont projetés par le gouvernement du Canada actuel, là, le Québec baisserait à 18%. Donc, si on garde les seuils actuels de 430 000 à nouveaux arrivants par année, ben, on serait à 19,5%. Donc, dans tous les cas, le Québec baisse de manière importante. Puis, c'est une régression qui continue depuis, il faut savoir, depuis les origines de la Confédération. Aux origines, on avait juste les Anglais et les Français, c'était 50-50, si on veut.
On n'a pas besoin de remonter loin. Je pense que de mémoire, dans les années 70, le Québec pesait pour à peu près 30% de la Confédération.
Oui, oui. Puis c'est important ce qu'il faut savoir parce que la démographie, c'est le destin. C'est un mot qu'on prête à Auguste Comte, peut-être à tort ou à raison, mais qui a quand même beaucoup de vrai, je crois, parce que la démographie va avoir beaucoup d'impact sur la politique comme telle, sur la composition politique des élus, puis sur les idées qui circulent. Parce que ce qui faisait en sorte que dans les années 80, 90 et avant, qu'on parlait de la question du Québec dans le Canada, c'est parce que le Québec pesait pour beaucoup. Il y avait une démographie importante, une population importante, donc il fallait savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette population-là. De quelle manière peut-elle être canadienne ou du moins...
Ouais, c'est un poids au Parlement aussi. T'arrives avec une délégation importante. Il y a pas beaucoup de politiciens fédéraux qui se disent c'est absolument fondamental qu'on gagne l'île du Prince-Édouard pour former le gouvernement. Alors ça colore tout le reste. Alors là, j'imagine, poussons la logique plus loin là. Et il y a un peu d'avocat du diable là-dedans, Philippe Lorange. Ou bien pourquoi le Québec prendrait pas ce que j'appellerais la solution ontarienne, c'est-à-dire on va gonfler notre population tellement qu'on va finir par non pas diminuer le poids du Québec dans la Confédération, mais l'augmenter massivement. C'est un peu ça que les Ontariens font.
C'est une solution qui est apportée. Je crois que c'est une fausse solution. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada anglais, depuis plusieurs années, n'a pas vraiment d'identité nationale, n'a pas de culture nationale. Si on voit au Canada anglais, par exemple, à la télévision, ce qu'ils écoutent souvent, c'est les nouvelles américaines. Ils n'ont pas forcément de série canadienne anglaise. Il n'y a pas, en tant que telle, une culture canadienne anglaise. Les Canadiens anglais sont quand même très américanisés. Après, j'ai un grand respect pour eux, malgré tout. Mais c'est un fait qu'ils n'ont pas d'identité nationale très forte. Tandis qu'au Québec, on a une culture distincte comme telle. On est une société distincte, une nation particulière qui a ses propres séries, ses propres artistes, qui se distingue du reste de l'Amérique du Nord. Donc, pour nous, la question de l'intégration des nouveaux arrivants se pose de manière extrêmement importante, pas du tout de la même façon que chez les Ontariens ou chez les autres Canadiens anglais. Ce qui fait en sorte que si on accepte encore beaucoup plus d'immigrants qu'on le fait actuellement, ben on va avoir une difficulté d'intégration. Puis on le voit en Europe, l'intégration, c'est une question qui est majeure, qui est cruciale dans le débat public, qui est même explosif. Et là, en ce moment, ce qu'il faut savoir, nos seuils sont à 50 000 immigrants par année, des immigrants permanents. Mais si on compte les immigrants temporaires avec ça, on sait qu'en 2019, on a fait accueillir 200 000 personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers au Québec et des travailleurs temporaires. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration, il y en a beaucoup là-dedans qui sont anglophones ou qui sont des anglotropes. Donc, autrement dit, des gens que...
Des anglotropes. Ça mange quoi en hiver?
Ça mange même chose que tout le monde. Mais en gros, un anglotrope, c'est quelqu'un qui a une langue maternelle qui est plus proche de l'anglais que du français. Et souvent, les anglotropes ont plus tendance à s'angliciser qu'à se franciser.
Mais c'est qui, ça? C'est les Néerlandais?
Les Polonais, par exemple, ou des langues comme ça, l'allemand aussi. Tandis que l'espagnol, c'est francotrope, donc c'est plus proche du français.
Les langues latines versus les langues anglo-saxonnes.
Oui, si on veut. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration qu'on reçoit actuellement, quand on regarde les spécialistes, les démographes, je pense notamment à Frédéric Lacroix, à plusieurs autres, ils nous disent que l'immigration en ce moment contribue fortement à notre anglicisation massive dans le Grand Montréal. Donc là, on en a 50 000 par année des permanents. Là, si on voulait suivre la tendance de 500 000 par année telle que projetée par le gouvernement fédéral, il faudrait en accueillir 115 000. C'est plus que le double, ça, là. Puis là, on a déjà de la difficulté à construire des logements. Puis là, d'ailleurs, il manque de gens dans la construction partout, là. Tout
mais
surtout
ça,
les gentils.
Mais cet enjeu-là, par exemple, le logement qui est un réel enjeu, c'est le même en Ontario, c'est le même en Saskatchewan, c'est le même au Nouveau-Brunswick, là.
Mais si je peux me permettre, justement, on veut pas se retrouver dans la même situation que Vancouver ou Toronto, où justement, il y a une inflation extrêmement importante des logements. Puis on le voit justement ici à Montréal, on parle depuis un certain temps de la crise du logement. Mais là, si on fait venir de plus en plus de monde, là, on est certain que ça va être un désastre du logement. Parce que ces gens-là, même s'ils veulent travailler, ils veulent contribuer à la société, ils veulent s'intégrer, il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas forcément le temps de construire autant, mais trouver, même si on avait le temps, faut aussi faire quelque chose qui est adéquat pour les besoins et pas faire des cellules de prison, si on veut, là. On veut faire quelque chose qui est bien pour l'avenir. Pas faire rapidement les choses. Donc ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, on veut que le Québec garde son élément français, sa culture aussi.
Ouais, et ça, et la langue, c'est une chose, la culture, c'en est une autre. Et ah ça, oui. C'est une intégration toujours plus difficile. On va se reparler de ce thème-là, mais je veux mettre quelque chose. Et d'ailleurs, Philippe, on se reparlera de ça. On parle toujours de l'immigration comme des gens qui arrivent d'ailleurs, qui viennent ici. Puis on fait le constat, il y en a tant qui sont allés en Ontario, il y en a tant qui sont allés au Québec, il y en a tant qui sont allés se perdre en Saskatchewan ou autre. Mais c'est juste une partie de l'équation, ça, c'est de le regarder juste d'un côté de la lorgnette. Parce qu'une fois que t'es entré au Canada, tu peux aller, quelqu'un qui arrivera à Montréal peut aller vivre en Ontario, et l'inverse. Et mon pif me dit, surveille-nous ça pour la prochaine fois, historiquement, il y avait plus le bilan migratoire interprovincial, c'est-à-dire est-ce que les gens quittent plus le Québec pour une autre ou l'inverse. Le Québec avait toujours un bilan négatif. Donc, il y a plus de gens dans une année qui allaient vivre dans le reste du Canada à partir du Québec que l'inverse. Mon pif, c'est que comme Montréal était une ville moins chère que Toronto ou d'autres, qu'il y a un bilan migratoire positif, c'est-à-dire qu'on reçoit plus de gens de l'extérieur de la province de Québec qui vivaient au Canada qu'avant. Ce qui viendrait complètement, peut-être pas tricher les chiffres, mais apporter une lecture complètement différente. Parce que là, qui arrive en Ontario ou qui arrive au Nouveau-Brunswick, si l'année d'après sont au Québec, c'est des chiffres qu'on voit pas, là.
C'est important. En effet, je peux retrouver les chiffres là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que dans les dernières années, on savait qu'il y avait beaucoup de sorties. Parce qu'il y en avait qui arrivaient au Québec, qui se pensaient que ça allait tout se passer en anglais. Puis finalement, ils ont vu que c'était un peu différent. Il y a toutes sortes de situations aussi qui font en sorte qu'ils vont rejoindre la famille en Ontario ou ailleurs. Donc, les Québec, c'est comme l'entrée de départ. Donc, évidemment, il faudrait retrouver les chiffres pour savoir où est-ce qu'on en est dans le bilan migratoire comme tel. Mais ce qu'on sait, c'est que, en ce moment même, peu importe le bilan migratoire, il y a une telle chose qu'il y a une immigration importante que sur le Québec actuellement. Puis, le Québec n'a pas la capacité d'intégrer autant de gens, dans les seuils que veut Ottawa. Puis même les seuils qu'on a actuellement, c'est ceux qui ont été dictés par Jean Charest, qui ont suivi par la suite, qui sont devenus une norme sociale. Mais eux aussi, ils portent problème. Mais parce que historiquement, c'était 20-30 000 au Québec.
Oui. Mais là-dessus, et ce qui est fascinant, je faisais remarquer à quelqu'un récemment que ce soit les chefs de la CAQ, du Parti québécois, du Parti libéral ou de Québec solidaire, les quatre ont des chiffres vastement en dessous des seuils annoncés par le gouvernement Trudeau. Alors, il y a peut-être une union québécoise plus forte que l'on pense sur ce thème-là. Parlons des fameux critères EDI pour obtenir des bourses, des fonds de recherche. Alors, explique-nous d'abord c'est quoi des critères EDI, puis comment ça se fait que ça existe quand je parle de fonds de recherche.
Bon, ben c'est ça, le terme EDI va finir par se connaître de mieux en mieux dans les prochaines années, parce que c'est comme devenu, j'appelle ça, peut-être exagérément, mais j'appelle ça un nouveau communisme quasiment, là, parce que c'est rendu partout. EDI, c'est un acronyme pour équité, diversité, inclusion. Donc, ça paraît bien comme ça.
Ouais, à date, ça n'avait pas l'air de faire peur. Alors, explique-nous là, où est le drame.
Le communisme là-dedans, oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que EDI se fonde sur les États-Unis, les grands mouvements woke là-bas. Donc, autrement dit, on dit qu'il y a du racisme systémique en société. Il y a du patriarcat, il y a de la transphobie. Donc, à partir de ce fameux constat, entre guillemets, on dit, ben, pour réparer les injustices passées, le colonialisme, le patriarcat, il faut faire des actions pour retrouver un équilibre social. Donc, quelles sont ces actions-là? Ben, on dit tout simplement, ben, les entreprises, par exemple, je sais pas, il y a juste 3% de noirs chez les hauts cadres. Donc, il faut monter à 15%, par exemple. Donc, quelle est la solution à ça? On fait de ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc, autrement dit, on fait exprès d'élire des gens sur un CA parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, ou parce que, par exemple, ils ont dit qu'ils étaient transgenres, ou parce qu'ils ont un handicap en question. Donc, ça s'impose de plus en plus ici même au Québec.
Mais ça, la discrimination positive, c'est pas particulièrement nouveau. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est ça sur les stéroïdes, là.
Oui. Mais ça, c'est discrimination positive. Ça se faisait déjà au Québec, par exemple, pour les gens qui ont un certain handicap mental, parce qu'on sait que c'est objectivement plus difficile pour eux de trouver un emploi. Donc ça, on pouvait comprendre. Mais là, pour les personnes, par exemple, qui ont une couleur de peau autre, une orientation sexuelle, un genre différent, on a envie de demander, est-ce que leur vie est tellement... Est-ce que c'est si difficile que ça de trouver un emploi par rapport à quelqu'un qui est hétérosexuel?
Mais là, c'est pas un emploi, c'est des demandes de bourses pour faire des recherches.
C'est ça. Là, ça entre dans les bourses. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche le Fonds de recherche du Québec. C'était des professeurs qui ont dénoncé la chose il y a quelques jours de ça. Puis il y a quelques jours, c'était aussi Patrick Moreau, le directeur de la revue Argument. Et donc, il dénonçait le fait que depuis un an, depuis septembre 2021, les bourses de Fonds de recherche du Québec, donc pour ceux qui étudient à la maîtrise ou doctorat au Québec, ben maintenant, ils doivent répondre à des critères EDI tels que dictés par l'ONU. Donc, l'ONU a comme 17 objectifs de développement durable. Encore une fois, ça paraît bien comme ça. Mais quand on connaît un petit peu quelle est l'idéologie qui oriente l'ONU, quels sont les grands critères de l'ONU, on sait que souvent, ça penche un peu du côté quand même bien pensant, puis wow, si on veut. Ça se va de plus en plus vers là. Donc, j'ai peur que, puis je suis pas le seul, justement, il y en a plusieurs qui t'annonçaient la chose dans les journaux, c'est que les bourses soient orientées vers une recherche militante là, pour la justice sociale.
Philippe Lorange, là, entendons-nous, c'est pas des bourses de soutien, par exemple, comme les fameux programmes de prêts et bourses, là, c'est des bourses d'excellence pour des recherches, là.
Absolument.
OK, alors, mon postulat de base, puis peut-être que c'est révolutionnaire ou que c'est non fréquentable, c'est ben la bourse devrait aller là où le potentiel de recherche, où l'habilité du chercheur est la meilleure. Là, ce que tu me dis, c'est que c'est pas ça du tout. Là, maintenant, c'est quelle est mon orientation sexuelle, quelle est la couleur de ma peau, quelle est mon appartenance ethnique, puis c'est ça qui guide quelque part une partie des facteurs.
Cela dit, pour le moment, de ce que j'ai vu de la bourse, ce qui ne demande pas encore tout de suite la couleur de peau, tout ça, mais c'est comment dire EDI, ça va s'en venir, ces genres de choses là. Pour le moment, ils se concentrent vraiment sur les objectifs de développement durable. Donc ça va beaucoup s'orienter sur le fait que est-ce que votre recherche est utile pour l'environnement, le développement durable, puis la justice climatique, la justice sociale. Donc inévitablement, on va venir à la couleur de peau, le genre, tout
mais
ça.
C'est ce qui me dérange même là, même sans venir à ça, ce qui m'inquiète profondément, il est dangereux d'orienter la recherche,
absolument.
Même au nom d'objectifs gentils, bons, nobles. Orienter la recherche, personne peut savoir. Par exemple, la recherche fondamentale, ça mène où? La majorité des choses qu'on invente sont inventées ou découvertes par hasard.
Par accident, parfois, ben oui.
Et alors, orienter la recherche, on pourrait se dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'on met pas toutes nos ressources pour trouver un remède au cancer puis on laisse faire les autres? Orienter la recherche, c'est le début d'une espèce de dictature du prédéterminisme, là. Il y a quelque chose de néo-marxiste dans cette chose-là. Là, c'est le gouvernement Legault qui est au pouvoir. Tu m'as dit que c'était des fonds de recherche du Québec. Coudonc, là, qui font quoi de leur journée là au gouvernement?
Ben, j'ai envie de dire, c'est parce que au gouvernement Legault, parfois, j'ai l'impression que c'est pas ils sont pas forcément dans une idée de guerre culturelle. Donc parfois, ils laissent la fonction publique faire un peu leur bêtise, puis ils vont laisser faire. Parce qu'ils ont pas l'air de comprendre qu'il y a comme il y a toute sorte une idéologie qui s'impose dans la fonction publique, qui s'impose après dans les universités, dans toutes sortes d'institutions. Donc ça fait en sorte que je pense que François Legault et son gouvernement ne comprennent pas que dans le milieu universitaire, la fonction publique a l'air de contribuer au wokisme, comme on le voit actuellement. Puis ce que je trouve dommage, c'est que c'est François Legault qui a lancé la commission Cloutier, qui s'interrogeait ceux qui faisaient une enquête sur
la liberté d'expression à l'université.
Oui, c'était pas si mal quand même les conclusions, puis après les solutions qui étaient apportées. Donc c'est une bonne chose. Puis on se rappelle, c'est ça, François Legault est contre le wokisme, il veut la liberté d'expression, la liberté académique. Mais après, j'ai envie de dire, il faut des actions, puis il faut surveiller les fonctionnaires, parce que là, eux autres s'en viennent avec des comme ça passe comme si de rien n'était, une lettre à la poste.
Philippe Lorange, là, t'arrives avec quelque chose de révolutionnaire. Es-tu en train de me dire qu'on peut pas juste se fier au discours des élus? Ça prend aussi des actions qui vont avec? Voilà, écoute, oui. Là, on va être obligé de changer complètement notre grille d'analyse. C'est le genre de choses qui m'inquiète jusqu'à maintenant. Quelle est la chose, là, une chose, en terminant, que le gouvernement Legault, puis là, il y a un nouveau ministre, ici, ça va être la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Derry, quelle est la chose qu'elle devrait faire tout de suite? Elle commence un nouveau mandat.
Faut vraiment s'assurer que la recherche ne soit pas orientée, comme tu dis. faut vraiment s'assurer que ça reste tout le temps, toujours objectif le plus possible, qu'il n'y ait pas de militantisme, qu'il n'y ait pas de critères EDI, qu'on n'essaie pas de chercher à être le plus écologiste possible, d'orienter la recherche. Peu importe c'est quoi la vertu qu'on prône, le nouvel enjeu qui est à la mode, faut jamais orienter la recherche. Parce qu'il faut laisser les chercheurs faire leur sujet. C'est important parce que, comme tu dis, on découvre des choses par accident. Puis parfois, il y a des sujets qui n'ont pas forcément une utilité concrète. Par exemple, je pense à ceux qui font de la recherche en philosophie transcendantale. Mais rapidement, comme ça, ça n'a pas une grande utilité sur le plan économique. Mais ça permet de mieux réfléchir sur le rapport de l'homme avec le monde qui l'entoure. Puis ça, c'est quand même important pour l'avenir du monde.
Oui, puis il faut avoir ce que j'appelle la bonne inclinaison du chercheur. C'est que le chercheur doit chercher la vérité, mais avec l'humilité que ça se peut que sa thèse soit invalidée. C'est pas la même chose que de chercher à confirmer coûte que coûte ce que l'on croit déjà. Ça, c'est plus de la recherche, c'est du militantisme subventionné. Philippe Lorange, qui est notre chroniqueur à la Vie nationale, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au plaisir.